Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passagers à niveau, votre compagnie jusqu'à 14h ce dimanche 17 mai, la première heure. Eh bien, vous avez plus de 65 ans, soit 55 ans. Eh bien, ceci vous intéresse, effectivement, il va y avoir les 3e journée internationale d'information franco-portugaise sur les retraites du 3 au 5 novembre, inscription jusqu'au 14 septembre. On a avec nous Philippe Benville, représentant de la CNAV, assurance retraite, et Pedro Vasco Pacheco, qui est attaché de la sécurité sociale du Portugal ici en France. Deuxième heure, prologue de la 19e édition du Festival Parfum de Lisbonne cette année. Transmission, c'est le thème. Le prologue, cela aura lieu le 20 mai. On parlera également dans livre, mais derrière en livre, il y a toute une histoire personnelle, mais également du colonialisme. Je vais parler de Limpo, de l'auteur, comédien et metteur en scène Victor de Oliveira. Et après, bon, vive la fête, ce sera samedi 23 et 24 mai à Ponto Combo. On aura le président de l'Association portugaise culturelle et sociale de la Seine-et-Marne. Mais avant tout, à place à mes invités, Philippe Benville, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être là parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois par téléphone, mais là, on est de visu. Et avec nous, de retour, Pedro Vasco Pacheco, bonjour.
Bonjour.
Alors, mes amis, bon, on va commencer par présenter, j'appelle les 3e journées internationales d'information franco-portugaise sur les retraites, Philippe Benville.
Elles ont toujours du succès, il y a une vraie utilité, c'est vraiment intéressant que les gens qui se posent des questions, qui commencent à préparer leur futur départ à la retraite, alors qui est plus ou moins proche de leur âge, et qui à un moment ont eu une carrière, comme on le voit beaucoup maintenant, on va dire international, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai eu une activité au Portugal, j'ai une activité en France, peut-être encore dans un autre pays. Et l'idée, c'est de se dire, c'est complexe, parfois un peu subtil. L'idée, c'est mieux je me prépare, mieux je réussis mon départ à la retraite. Il y a beaucoup de questions à poser, il y a des choses à corriger. Et là, il y a un vrai confort. On va pouvoir, sur rendez-vous, gratuitement, rencontrer les différents experts des caisses de retraite, le régime de base, le régime complémentaire, les questions pour le régime de la Caisse du Portugal, c'est quand même un vrai plus pour toutes les personnes qui veulent se préparer.
Alors, Pedro Vasco Pacheco, pour le Portugal, bon, ces journées, c'est vraiment, ça vaut de l'or, hein, je crois, parce que c'est très important, ça aide pas mal.
Oui, je pense que c'est une excellente opportunité pour tous les Portugais qui sont vécus en France, de parler directement avec des conseillers français et bien sûr aussi du CNP, Centre National de Pensões. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment utile d'être là et faire un peu la publicité de ce type d'événement et pour avoir beaucoup de gens qui ont vraiment besoin. Peut-être qu'ils ne savent pas que c'est déjà le moment de préparer leur retraite. Ils attendent jusqu'à 164 et ce n'est pas le bon moment là. Il faut préparer, comme Philippe a bien dit.
Alors, par rapport à nos auditeurs, vous pouvez envoyer des messages soit par écrit, soit audio. Seja por escrito, ou étant grave sous message. Et on va sauter du portugais au français parce qu'il y a peut-être des questions. Alors, Philippe Benville, vous avez dit on va retrouver les diverses caisses. Mais question. Donc, quand on fait l'inscription, bon, on va dire l'inscription www.l'assurance-retraite.fr et après, on est aiguillé directement, bon, tout ça, mais ça, on expliquera à la fin. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, quand on s'inscrit, il y a cet nombre de données qu'il faut fournir. Quoi exactement?
Alors, il y a des choses qui sont intéressantes. On va demander, en effet, ça paraît évident, le mail, le nom, le prénom. Et on va aussi récupérer les informations, le numéro de sécurité sociale. C'est important parce qu'en fait, les conseillers français, portugais, on va pouvoir préparer en amont de la rencontre les données parce qu'il y a des dossiers qui sont plus ou moins compliqués. Et on peut les préparer. Et quand les personnes viennent nous voir, on a les dossiers. Et c'est vrai que c'est un vrai plus, on perd pas de temps. On les a identifiés et on peut répondre aux questions et essayer de faire avancer les choses. Donc voilà, au moment de l'inscription, on a besoin de capter ces informations-là pour pouvoir s'en servir après.
Ouais, il y a l'avantage maintenant, c'est qu'avec le Portugal, tout est digital. Dans l'OTAN, il y avait des dossiers papier qui faisaient l'aller-retour. Tout ça, c'est fini, heureusement. Et puis, pas tellement longtemps, finalement. Bon, les sons, c'était des mauvais souvenirs, tout ça. Mais alors, quand on parle du numéro de la sécurité sociale portugaise, avec la carte d'identité portugaise, il y a déjà un numéro. C'est ça qu'on appelle le NIS.
Oui, c'est ça. C'est le NIS, c'est le numéro d'identification de sécurité sociale. Plusieurs fois, je trouve que le recenseur portugais ne connaît pas bien ce numéro-là. Peut-être parce que l'ancien carte d'identité, n'avait pas ce numéro-là. Et alors, c'est simple. Il faut toujours prendre ces documents. Nous sommes arrivés au consulat pour avoir un rendez-vous et aussi, bien sûr, dans les jours, dans les journées. Et comme ça, on peut avoir l'accès directement à toutes les informations. Et c'est vrai, c'est ce que Philippe a dit, que les conseillers vont préparer les dossiers avant. C'est pour ça que aussi c'est une bonne idée de faire prendre rendez-vous. Et comme ça, on aura toutes les informations nécessaires avant d'arriver. Mais dans ce moment-là, on peut aussi rechercher et trouver des autres informations sur les systèmes. Et c'est pour ça que le digital, c'est tant important, parce qu'il nous donne l'opportunité de trouver des informations et aussi de donner les meilleures façons de faire les choses ou de poser comment, qu'est-ce qu'il faut faire avant.
Donc, ça veut dire, bon, la question est valable pour tous les deux, c'est-à-dire c'est qu'une fois qu'on envoie ces informations... Quand on va arriver au rendez-vous, alors je rappelle, hein, ça sera du mardi 3 au jeudi 5 novembre, après on donnera les adresses et tout et tout. Donc, quand on arrive, qu'est-ce qui se passe? Bon, on se présente, je pense qu'on commence pas par la caisse portugaise. On a le droit, un papier avec quels sont les détails qui sont dans cette feuille.
Oui, alors, normalement, les gens qui ont rendez-vous, ils peuvent décider s'ils veulent parler seulement avec le conseiller français, portugais ou les deux. Ou les trois, parce que la Gigarousse est aussi présente, normalement. Alors,
Oui, parce qu'un procès, on fait un circuit.
Oui. Presque en marché de retraite, on peut dire. Et comme ça, quand les gens sont arrivés, il faut seulement dire que j'ai un rendez-vous avec le conseiller de la CNAV, par exemple, et après, si c'est nécessaire, ils peuvent parler aussi avec le conseiller portugais, ou l'envers, ça va dépendre. Il y a vraiment une obligation, un parcours obligatoire, mais tout d'abord, il faut prendre la carte d'identité, savoir son numéro de sécurité sociale français, bien sûr, aussi, c'est vraiment important. Et après, c'est justement écouter, parler avec les conseillers, savoir les meilleures façons de faire, quand il faut déposer, quels sont les documents qu'il faut fournir avant vraiment d'être en retraite tranquillement. Et c'est comme ça que ça se passe.
Oui, parce que Philippe Bainville, en principe, bon, quand on va voir l'assurance retraite, on arrive et sur l'écran de l'ordinateur, mais souvent c'est déjà imprimé, on a toutes les cotisations qu'on a fait depuis qu'on est arrivé en France. C'est un petit peu comme ça se passe.
Alors, maintenant, beaucoup mieux qu'avant. D'accord. Mais on va se le dire, il n'y a pas de sujet là-dessus, parce que ça concerne aussi des personnes nées en France, françaises, c'est pas forcément les assurés portugais venus en France. Il y a parfois des problèmes d'enregistrement, et c'est vrai que pour les personnes qui ont commencé à travailler, à être immatriculées à la fin des années 70, dans les années 80, avant l'informatisation, on peut rencontrer des personnes qui parfois, attention, ont eu deux numéros de sécurité sociale. Donc, c'est parfois des dossiers plus compliqués. En effet, quand tout fonctionne bien, tout est enregistré. Si jamais il y a des choses qui manquent, c'est exactement à ça que ça va servir. Le travail de mise à jour de la carrière, c'est de dire, pour savoir à quel moment vous allez partir et avec quel montant, on doit boucher ces trous, récupérer ce qui manque pour vraiment pouvoir vous attribuer le bon montant au bon moment.
Ça veut dire, Philippe Bainville, parce que des fois, il dit, telle année, vous n'avez pas cotisé, tel trimestre, il n'y a rien du tout. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est très important, que les gens oublient, c'est qu'il faut garder les fiches de paye, non, Philippe?
Alors, je ne vais pas tomber dans un cliché, mais dans une autre vie, j'ai été conseiller, j'ai fait du rendez-vous. Normalement, nos assurés portugais gardent leur justificatif. Et c'est vrai que c'est ça le conseil à donner, y compris aux plus jeunes, qu'on soit portugais, français, peu importe, garder les justificatifs pour être sûr que, en effet, s'il y a un mauvais enregistrement, il n'y a qu'une partie de l'activité, ou alors
il y a un trou,
elle n'est pas du tout enregistrée. En effet, si on peut prouver avec les justificatifs qu'on a bien cotisé au niveau du système, on va pouvoir régulariser la période et ajouter.
Mais il faut faire les photocopies de ces fiches de paie, pardon.
Oui, et il peut arriver déménagement, inondation, incendie, séparation, qu'on n'ait plus les justificatifs. On va pouvoir malgré tout tenter de faire des recherches, puisque tous les employeurs qui ont bien fait les choses ont déclaré tous les ans normalement leurs salariés. Peut-être qu'ils ont déclaré, ça n'a pas été enregistré chez nous, pour autant on a bien une trace, on a tout gardé, hein, depuis 60 ans, tout est enregistré. Il faut juste voilà, qu'on vous retrouve, mais il y a quand même un moyen, mais idéalement il faut avoir gardé les justificatifs. Donc le premier conseil qu'on peut donner, c'est gardez bien vos justificatifs, le chômage, la maladie, l'activité, c'est quand même... Et parfois on se rend compte en effet qu'à un moment de la carrière, le numéro de sécurité sociale... pour des raisons obscures, il a été modifié. C'est pas très grave, on va tout réunir. C'est plus long, c'est plus compliqué, mais on va le faire.
Il y a une autre complication, c'est que les étrangers... Bon, la France, bon, c'est les prénoms, les noms, etc. C'est assez compliqué. Il y a des gens qui sont retrouvés avec des cartes de la sécurité sociale avec des noms différents. Bon, après, bon, Dieu, comme dire Dieu, retourne ses petits. Bon, mais enfin, alors, mais par rapport au Portugal, nous, on sait que bon, il y a, bon, c'est peut-être une génération qui est déjà partie à la retraite, mais il y avait souvent des gens qui ont travaillé au Portugal, bon, qui n'avaient aucun document, rien du tout, et que même la Caixa Nacional de Pensões arrive à retrouver. Et c'est pour ça qu'il y a des gens après qui demandent, parce que, ah oui, c'est très important, c'est que les années qu'on a cotisées au Portugal, ça compte pour la retraite française, mais ça compte à quel niveau exactement?
Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cumuler les deux carrières pour voir exactement quelle est la durée d'assurance. Si je dois faire simple, c'est combien de trimestres voilà. J'ai en tout, France plus Portugal, peut-être un autre pays européen. Et puis, au niveau de la carrière française, on va peut-être retrouver, nous, des périodes agricoles, par exemple, pour les gens qui auraient été salariés agricoles. Donc, on ajoute tout ça et on voit combien il y a de trimestres. Ça nous sert après pour savoir si le droit est ouvert ou pas. Et puis après, je vais reprendre l'image des petits. Chacun retrouve ses petits et chacun paye ce qu'il a à payer. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la France ne paye la partie portugaise ou le contraire, le Portugal ne paye la partie française. On se sert de ce qui a été obtenu dans chacun des pays pour nos formules de calcul un peu compliquées, et après chacun paye sa part de retraite.
Oui, tout à fait. Et la retraite au Portugal, c'est pas le même âge qu'en France. Il faut faire une démarche. Bon, mais ça, je vais poser des questions tout à l'heure à Pedro Pacheco. Mais par rapport au Portugal, justement, parce que les gens disent bon, comment ils ont fait pour trouver là où j'ai travaillé mes cotisations. C'est vrai qu'au Portugal, on a commencé à informatiser tout ça, il y a belle lurette.
Oui, je peux dire que peut-être du côté portugais, nous avons un petit avantage sur la France, c'est que le fait que nous sommes un pays plus petit, ça nous a permis de facilement trouver toutes ces informations-là. Bien sûr, il y a encore des trucs dans la carrière. Je pense que c'est peut-être le pas le plus important pour... prendre attention avant de la départ, quand même dans le moment de préparer la retraite. Et sur cette question-là, je peux dire que c'est à l'envers. La France, ils vont vraiment donner beaucoup d'importance, et c'est une excellente idée, à la question de préparer la retraite. Et c'est pour ça que j'utilise cette même type d'information, pas seulement pour le ressortissant portugais qui sont vécus ici en France, pour aussi de son côté préparer la retraite et ne pas penser que bon, l'âge de partir de la retraite c'est différent, c'est vrai, mais après peut-être sinon on n'essaie pas d'avoir la carrière régularisée du côté français et portugais en même temps, on va avoir des problèmes. Parce que justement parce qu'on va ajouter des carrières, si les carrières du côté portugais n'est pas mise à jour, ça va avoir aussi un effet négatif du côté français et à l'envers. Et c'est pour ça que on peut faire peut-être plus facilement et facilement trouver les informations. Bien sûr que les patrons ont bien déclaré les travailleurs, mais on a presque tout dans le système, en microfilm. Il existe encore des archives en papier. Et c'est aussi possible de faire une démarche pour rechercher cette information-là.
Alors, Philippe Bainville, aujourd'hui, quel est l'âge légal de départ à la retraite, s'il vous plaît? Expliquez-nous.
Alors ça, c'est la question piège, puisqu'évidemment, l'année de naissance, on n'est plus vraiment sur le même âge pour tout le monde. On va dire qu'une fois que la réforme va avoir fait un peu son effet, on va finir par arriver, s'il n'y a pas un nouveau changement l'année prochaine, à un âge légal qui sera 64 ans. Donc on est encore sur une partie un peu particulière.
Et combien de trimestres? C'est l'âge ou c'est le nombre de trimestres qui compte?
Alors, l'âge, quand on a l'âge légal, donc 64 ans pour certains et un peu moins pour selon son année de naissance, on peut partir. On a le droit de partir dès qu'on a l'âge légal. Par contre, si on n'a pas le nombre de trimestres, qui va doucement arriver à 172, 43 ans, si on a l'âge mais pas les trimestres, on va avoir une décote, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le montant entier de sa retraite. Donc, c'est un choix à faire. Et là aussi, les conseillers sont là pour ça. Ils vont faire différentes estimations en disant, voilà, monsieur, vous pouvez partir à cet âge-là, mais comme vous n'avez pas les trimestres, ça fait ce montant-là. Par contre, si vous décalez un peu et que vous partez un an et demi, deux ans, trois ans après, voilà le montant que vous aurez. Donc, c'est l'idée de dire, nous, on vous donne les informations, vous êtes libre, sauf cas particulier, on ne part pas avant l'âge légal. Quand même, une personne sur quatre qui part encore avant l'âge légal. Mais dans les cas les plus fréquents, on peut partir à partir de l'âge légal, mais on peut faire le choix aussi de poursuivre son activité, même si on a tous les trimestres, parce qu'on a envie de continuer à travailler.
Alors, ces journées s'adressent aux plus de 55 ans. Quelqu'un qui a 55 ans aujourd'hui, est-ce que je vais partir à la retraite à 64, 65, 67? Bon, ça, on n'est pas divin. Bon. Alors, une question concrète, c'est Madame Cécilia. Elle a 57 ans. Elle est au chômage et elle va commencer à recevoir une pension d'invalidité. Alors, sa question est simple et compliquée, mais pour quelqu'un qui regarde ses sous, c'est très important. C'est que quand elle partira à la retraite, malgré le fait qu'un handicap a été reconnu, elle peut cumuler la pension d'invalidité et la retraite ou pas?
Alors, quand on perçoit une pension d'invalidité, on ne peut pas cumuler la retraite et l'invalidité. On va avoir la pension d'invalidité jusqu'à 62 ans. Voilà un exemple d'un cas particulier où on va partir avant l'âge légal. À 62 ans, on pourra partir à la retraite sans décote. C'est-à-dire que même si on n'a pas le nombre de trimestres, parce qu'on a ces soucis de santé, on pourra partir à la retraite. Mais ça sera à 62 ans. Il y a une petite particularité, je ne sais pas si madame sera concernée, c'est pour les invalides qui travaillent. Eux, ils ont le choix de dire, moi, je ne veux pas prendre ma retraite.
Mais elle est au chômage.
Si visiblement, il n'y a que de l'invalidité le moment venu, elle n'aura pas le choix, c'est 62 ans. Sans décote, mais elle n'aura pas le choix, elle devra demander la retraite pour que l'invalidité s'arrête et que la retraite prenne le relais.
Faut-il encore que la retraite soit un petit peu conséquente? Bon, mais ça, ça dépend pas de nous, bien entendu. Parce que même par rapport aux retraites, Philippe Mainville, est-ce qu'il y a une retraite minimum qui est garantie ou pas? Parce qu'il y a le minimum vieillesse, tout un tas de choses qui sont derrière, mais est-ce qu'il y a une retraite minimum?
Alors là, on va rentrer dans des subtilités très techniques. Oui, il y a un montant théorique. Mais il faut avoir un certain nombre de trimestres, un certain nombre de trimestres cotisés. Donc, il y a un système qui permet d'augmenter la retraite selon le nombre d'années où on a travaillé. Pour autant, on peut aussi avoir des personnes qui, le minimum vieillesse, c'est une aide en plus qu'on va donner sous condition pour permettre aux personnes qui ont de petites retraites, de petits revenus, au-delà des retraites. On va regarder le montant du livret A, enfin, on va vraiment regarder toutes les ressources et on pourra compléter sous condition avec une aide. C'est pas vraiment de la retraite, c'est une aide en plus.
Une aide en plus, oui. Donc ça suppose un dossier, ça suppose paperasse et tout ça. Conclusion, Madame Cécilia, bon, je pense que la réponse a été claire. Une fois que vous partez à la retraite, la pension d'invalidité est terminée.
Exactement.
Bon, et là, il y a peut-être des recours auprès des assistantes sociales, etc., parce qu'il faut voir exactement quels revenus vont être disponibles pour elle. Mais, Pedro Pacheco, ça concerne la retraite au Portugal. En ce moment, quel est l'âge légal de départ? Parce que c'est pas la même pour les hommes et pour les femmes.
Non, non, au Portugal, c'est la même.
Ah, c'est la même, là, maintenant. Bon, maintenant.
Non, la question, c'est que c'est pas comme la France, parce que nous n'avons pas vraiment un âge de départ que c'est régulier, c'est la même. En fait, on en change presque toutes les années. Dans l'année 2026, on part de 66 et 9 mois, mais on savent déjà que l'année prochaine, ça sera 66 et 11 mois. C'est progressif, elle va grandir, et c'est quelque chose qui est lié pas au pouvoir d'achat, comme j'ai déjà écouté, mais c'est lié à on peut dire, à heureusement, les gens vivent de plus en plus, et comme ça, il faut aussi que la sécurité sociale s'ajuste à cette question. Je sais que normalement, ce type de situation, c'est difficile de comprendre. Je laisse seulement un avis. N'ai jamais pensé que l'âge de départ, c'est la même dans tous les pays, parce que normalement, il était là. C'est pas la même. Et aussi, les conditions ne sont pas les mêmes aussi. Je peux aussi dire que, il existe aussi un minimum au Portugal, mais c'est aussi sous condition de ressources. Ça signifie que normalement, les Portugais qui habitent dehors de Portugal, s'ils ont les droits ouverts dans une pension, quand même une réversion française, par exemple, normalement, ils sont déjà là du plafond pour avoir un minimum de vieillesse portugaise.
Et la démarche, on l'a fait auprès de qui? Auprès de l'assurance retraite en France ou auprès de la Caisse nationale de pensions au Portugal?
Ça va dépendre des pays où nous sommes vécus.
Si non, alors c'est concernant, si on est en France.
Oui, Portugal, si nous sommes en France, c'est toujours fait après la caisse de retraite du régime général. Ici, là, bien sûr, une précision, il y a des gens qui ne cotisent pas pour le régime général. Alors, si je cotise pour la MSIA, ça signifie que je
dépose la caisse de retraite agricole.
Oui, ça sera après la MSIA. Et la même chose, nous avons un régime spécial. Il existe encore plusieurs régimes spéciaux ici en France. C'est pour ça que c'est vraiment important de trouver ce type d'information après votre caisse de retraite régime général. Et bien sûr, aussi, si vous avez des questions, pour les auditeurs qui ont des questions spécifiques sur le régime portugais, il y a bien sûr la page de surveillance sociale directe dans Internet et aussi le service de l'attaché de sécurité sociale.
À Paris, c'est vous. Oui, à Paris, bon, vous êtes un petit peu partout.
Toute la France,
en France, oui. Alors, Philippe Bainville, il y a des Portugais retraités. Bon, ça ne les concerne pas, mais peut-être profitez que vous êtes là pour poser la question. Ils sont retraités. Ils ont eu leur assurance retraite, donc en France. Ils sont partis au Portugal. Comment ça se passe, je ne sais pas si vous êtes au courant, au niveau des impôts? Parce que je pense que, est-ce que quand les retraites partent au Portugal, je ne sais pas par quel système, bon, mais ça c'est maintenant tout est digital. Est-ce qu'on enlève déjà les impôts ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le régime fiscal des retraités portugais qui vivent au Portugal?
Alors, ce qui peut être important de rappeler, parce qu'on l'a un peu sous-entendu avec Pedro, c'est que d'abord, la retraite, elle est exportable. Donc en effet, d'accord, quand on quitte le pays, qu'on aille au Portugal, en Californie ou je ne sais où, on aura sa retraite. Donc ça, c'est important. Et après, ça va vraiment dépendre de sa domiciliation fiscale. Si je suis fiscalement résident au Portugal, je vais dépendre du système portugais. Et l'inverse est vrai aussi. Donc ça dépend vraiment, voilà, de quelle est ma résidence principale. C'est pour ça que si je suis retraité dans un premier temps en France et que je fais le choix d'aller passer ma retraite, mes vacances illimitées au Portugal, je dois surtout le mentionner à ma caisse de retraite. On précise bien qu'on quitte le pays, on donne sa nouvelle adresse. On n'oublie pas, si on change de coordonnées bancaires, de le préciser aussi. Et puis, en effet, si on se rend compte qu'on n'est plus domicilié fiscalement en France, on va devenir un résident fiscal au Portugal. Et à ce moment-là, on aura affaire avec l'administration fiscale du Portugal.
Les impôts portugais, ça veut dire que la retraite, ici, un exemple, hein, c'est 1 200 euros. C'est 1 200 euros qui sont envoyés au Portugal ou pas?
Oui, exactement. Nous, quand les résidents sont en France, on est le plus gros collecteur d'impôts de France. C'est-à-dire que nous, on fait la collecte des impôts, pas pour nous, pour les impôts en l'occurrence, mais pour les résidents fiscaux en France. À partir du moment où vous ne résidez plus en France, au Portugal ou ailleurs, on paye la retraite Et après, ça regarde le pays concerné avec des règles particulières. Pour le Portugal, je pense que c'était assez simple. Il y a des pays parfois où c'est autrement plus compliqué avec d'autres prélèvements. Donc, faut bien se renseigner avant. Mais surtout, pensez à signaler son changement d'adresse, son changement de coordonnées bancaires. Et on l'a pas précisé tout à l'heure, si jamais on percevait le minimum retraite, attention, lui, il n'est pas exportable. La retraite de réversion, la retraite qu'on touche quand on a perdu son conjoint, ça, on peut le toucher à l'étranger. Le minimum retraite, l'aide en plus, ça, ce n'est pas exportable. Oui, tout à fait. Il faut résider en France 9 mois.
Pedro Pacheco, justement, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais enfin, l'imposition n'est pas la même en France et au Portugal. Parce qu'en Portugal, on paye le IRS, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire, sur les pensions de retraite, c'est combien? 20, 30, ça dépend encore.
Ça dépend, ça, parce que ce sont des échelons de revenus.
Oui, c'est pas seulement le revenu.
Alors, je peux seulement ajouter ce que Philippe a dit. Qu'il faut toujours avoir la bonne information sur le total de revenus que nous avons. Parce que, par exemple, quand nous sommes en France et nous avons déjà, on prend déjà la retraite portugaise et aussi la française, il faut les déclarer en France. Et la même chose quand nous sommes arrivés au Portugal. Alors, mais, il faut déclarer.
Je m'excuse, mais la retraite portugaise, c'est pas l'assurance retraite française qui nous paye directement?
Oui, mais ce que je dis, c'est de déclarer après les impôts.
Philippe, normalement, c'est automatique, parce que automatiquement, dans un retraité, il voit que, bon, on cotise pour tout un tas de trucs. Ça dépend après des montants des retraites, entre 5 à 7, même un petit peu plus, % c'est déduit directement.
Oui, mais pas la portugaise.
C'est parce que
c'est payé par un autre pays. Alors la France retraite ne peut pas mettre en charge une déduction sur une retraite portugaise. Ça, c'est une question qu'il faut que nous-mêmes la déclarent à les services d'impôt. C'est automatique pour le même pays que où nous habitons et pour la même retraite de ce pays. Alors au Portugal, il faut déclarer la retraite française. Quand nous sommes là ici en France, il faut déclarer la retraite portugaise.
Bon, on va commencer par la France. Ça veut dire que la personne, il faut qu'elle complète sur leur déclaration de revenus la retraite qui vient du Portugal pour payer.
Oui, parce que pour la retraite française, que ça soit pour la retraite de base ou la complémentaire, quand on a deux retraites comme la plupart des gens, les retraités, ils voient bien qu'on est d'abord on est déjà venu prélever l'impôt et qu'en plus quand on a sa déclaration d'impôt, les montants ils sont déjà communiqués normalement. Vérifie le montant, il n'y a pas d'erreur, mais en effet, il y a d'autres revenus, des revenus qui peuvent venir de l'étranger ou d'autres revenus même en France que l'administration fiscale n'a pas. Et c'est là qu'il faut, je sais pas, les dons par exemple, ça ne figure pas. Et ben on rajoute. Et ben la pension qui vient du Portugal, d'Allemagne ou du Luxembourg, on la rajoute aussi.
Alors l'imposition au Portugal. On est un résident fiscal en France. Et on fait des allers-retours, hein, mais enfin, bon, c'est très bien. Maintenant, on se permet ça pour venir voir ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, je pense, c'est les meilleurs. Alors, est-ce que le Portugal, au niveau fiscal, est-ce qu'il prend des impôts par rapport aux retraites françaises quand le domicile fiscal est en France?
Bon, cette question-là, tout d'abord, c'est une question fiscale, bien sûr. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut toujours prendre attention sur le période qu'il faut rester dans chaque pays pour être considéré domicilié fiscal.
C'est
pas quelque chose que je dis que je suis domicilié.
Normalement, c'est 6 mois et un an que je sache.
Mais on peut pas être 6 mois et un jour en France et au Portugal dans la même année. C'est pas possible.
Ah non, bien sûr.
C'est pour ça que l'aller-retour, c'est quelque chose de normal. C'est la mobilité. Mais ça signifie aussi qu'il faut prendre attention parce que c'était pas pareil d'être 6 mois au Portugal et 6 mois en France. Et après, s'il y a une question au niveau fiscal du côté portugais-français, il faut bien expliquer où nous étions la plupart du temps. Et ça va être pris en charge aussi pour savoir s'il y a ou non quelque chose du côté portugais, par exemple, au niveau d'imposition à déduire sur votre retraite française, par exemple.
Oui, à un moment donné, c'est fini, il n'y a plus de passeport au sein de l'Union européenne, mais les tampons des douanes, tout ça, c'est fini. Donc, notre déclaration fait foi, en quelque sorte, non ?
Nous, on va considérer que c'est l'adresse postale qui est connue, qui détermine si, en effet, vous êtes résident en France, au Portugal ou ailleurs. Après, il faut... Normalement, les gens jouent bien le jeu. En effet, on a le droit de faire des allers-retours. C'est complètement autorisé. On l'a dit, la mobilité, il n'y a pas de sujet.
Ah, ils le font, hein,
mais à un moment, il faut un peu choisir, quand même, où on est domicilié fiscalement. Et normalement, voilà, on... Bon, il y a peut-être qu'il y a des gens qui bricolent un peu, mais c'est pas la majorité. Honnêtement, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il faut qu'on sache où est la domiciliation fiscale pour que les règles s'appliquent bien. On n'a pas à payer des impôts des deux côtés. Il faut payer des impôts. Il faut juste qu'on soit sûr auprès de quelle administration on doit le faire.
Ah oui, parce qu'à un moment donné, il y avait la double imposition. Bon, pour d'autres choses aussi, c'était assez compliqué. Donc, avoir son adresse en France, un compte bancaire en France, ça va de suite. Bon, alors, il y a des gens qui font des allers-retours. Alors, ceux qui ont décidé de dire, bon, je pars au Portugal, résidence fiscale portugaise. Est-ce qu'il faut prouver tous les ans qu'on est bien vivant, bien portant ?
Alors, ça, c'est une règle qui a toujours existé. Les vrais progrès avec un certain nombre de pays européens, Pedro va m'aider, mais je pense que c'est vrai avec le Portugal.
Ouais, bien sûr.
On a l'informatique, a aussi des vertus, a aussi des avantages. C'est qu'on a un peu, je vais le faire un peu simplement, on a un peu branché nos systèmes d'état civil pour que la France et le Portugal, la France et l'Allemagne, la France et la Belgique puissent communiquer et justement se donner des informations pour qu'on récupère, pour savoir quels sont les retraités qui décèdent, pour pas qu'il y ait de louper là-dessus et qu'on n'accable pas trop les retraités avec ces démarches. Il y a encore, ça couvre à peu près quasiment, nous on a regardé côté français, il y a la moitié de nos retraités qui vivent à l'étranger qui sont couverts par ces systèmes d'échange direct. Et c'est vrai que ça facilite un peu la vie des retraités qui ont déjà fait beaucoup de démarches pendant leur carrière. Normalement, on doit pouvoir leur éviter. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, qu'on n'ait pas parfois à prouver son existence. Mais normalement, avec l'informatique, aujourd'hui, les caisses se parlent et font ces échanges-là.
Alors, par rapport à la caisse portugaise, ce n'est pas tout à fait ça que je sache, parce qu'il faut tous les ans dar uma prova de vida. Je suis bien vivant, faire une démarche digitale. Bon, là, ça se complique pour des générations qui ont un certain âge, qui ont du mal à dominer l'informatique. Alors, ça, c'est-à-dire pour les Portugais qui sont retraités en France et qui touchent la retraite portugaise, ils doivent faire la démarche tous les ans et dire, moi, je suis bien vivant.
Alors, sur cette question-là, il faut tout d'abord savoir qu'il y a deux régimes différents pour Portugal. Mais, vraiment, il y a trois régimes, mais sur cette question-là, normalement, on parle de régime général, seguridade social, et aussi caixa geral de aposentações, c'est le régime du fonctionnaire public. Et au niveau de la CGA, c'est vrai qu'il n'existe encore ce type d'échange de données avec l'assurance retraite, mais de notre côté, de l'assurance sociale, c'est déjà fait. Et je peux dire que le taux de succès, c'est presque 70%. Après, on travaille vraiment pour améliorer cet taux-là, parce que je pense qu'un jour, on va arriver à presque 100%. Mais alors, ça signifie que pour la CGA, oui, il faut toutes les années, nous sommes vécus en France, envoyer la preuve de vie pour le Portugal, pour la CGA. Au niveau de l'assurance sociale, je peux dire que ça sera quelque chose de nouvel. Dans ce moment-là, il ne faut pas envoyer aucune démarche au niveau de preuve de vie pour l'assurance sociale portugaise. Seulement l'année prochaine, 2027, ça va arriver.
Mais tout ça, bon, c'est par l'informatique, c'est digital. Donc, c'est fini, la petite déclaration qu'on remplissait, etc. etc.
Pour l'assurance sociale, oui. Au niveau de la CGA, je pense qu'il travaille aussi encore avec les papiers. Mais bien sûr, on ne part pas le même numéro de bénéficiaires. Du côté de l'assurance sociale, nous avons presque 45 060 bénéficiaires. Je ne sais pas combien.
C'est des Portugais qui sont retraités ici en France.
En France, oui. Je ne sais pas vraiment les numéros du côté de la CGA, mais 70% sont déjà trouvés et nous savons qu'ils sont bien de santé et vivants ou pas. C'est les 30% qui restent. C'est pour lui, celui-là qui, l'année prochaine, 2027, il faut faire la preuve de vie portugaise.
Alors, si jamais la personne est décédée, est-ce que vous communiquez ça à l'assurance retraite française?
Oui, c'est oui, avec le même système. Bien sûr, je ne veux pas dire que c'est un système qui fonctionne à 100%. Pas encore. Mais on travaille pour y arriver. Et bien sûr, la question la question du nombre de familles, c'est la question de l'enregistrement. Ça, c'est le problème qu'il faut solutionner avant d'avoir un système à 100%.
Oui, surtout avec les femmes. Parce que je pense que le problème est plus compliqué parce qu'au Portugal, il y a un nom à rallonge. Hein, parce qu'il y a le nom de la personne, elle a son prénom, le nom de la mère, le nom de le père, et le nom du mari, etc., etc. C'est pas le même système en France. Parfois, je pense que l'assurance retraite...
Les systèmes, ils doivent s'adapter. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on a notre état civil en France, comme on est une caisse française, on a nos habitudes avec le nom et le prénom. Et après, on doit s'habituer à toutes les particularités, le Portugal, l'Espagne, ou des pays bien plus lointains avec des logiques autrement différentes. Il y a des pays où le prénom n'existe pas. On doit s'adapter, on doit retrouver les gens. C'est important qu'on ait l'information. En effet, les gens qui meurent, on doit arrêter de leur payer leur retraite. Mais il faut aussi se dire que, possiblement, il peut y avoir une veuve qui est au pays et qui peut bénéficier d'une partie de la retraite française. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ces informations-là. Parce que, en effet, si la personne ne se fait pas connaître, si on n'a pas les informations, il peut y avoir des droits. Donc voilà, il y a des choses qui sont importantes. C'est... En effet, on doit contrôler qu'on paye bien les retraites aux gens qui sont toujours là. Mais il faut aussi savoir que quand on perd son conjoint, on peut avoir des droits et il faut se manifester. Si on est au Portugal, on passe par la caisse portugaise.
Ça, c'est très important. Alors, on a parlé du bon côté des choses quand il y a croisement d'informations. Parce que bon, mais aujourd'hui, récemment, il y a quelqu'un qui nous a alerté, qui a été contacté par les impôts en disant, mais monsieur, vous avez un compte bancaire au Portugal à telle banque, etc., etc. Bon, donc c'est pour dire, bon, finalement, est-ce que le fisc, il a accès direct, ça concerne les paiements de l'assurance retraite.
Alors, d'abord, les amis des impôts ne sont pas venus aujourd'hui.
Non, je pose une question naïve.
Il y a des règles qui permettent, en effet, sous contrôle, on ne peut pas faire ce qu'on veut comme on le veut, mais en effet, on peut être amené entre différents régimes en France ou avec des partenaires à l'étranger, en effet, à croiser des informations pour être sûr qu'il n'y a pas de tentative de fraude. Ça peut arriver. Et donc, on peut être amené à contrôler. On le disait avec l'exemple du passeport. C'est plus le cas pour les Français et les Portugais, mais il y a des gens à qui on demande leur passeport pour aller vérifier, en effet, s'il y a eu des entrées et sorties du territoire. Eh ben, l'accès à certaines données, dans certains cas, vraiment cadrés, contrôlés, on peut, et les impôts, ils ont cette possibilité-là, en effet, d'aller vérifier quand il y a un doute. Hein, les collègues des impôts passent pas leur temps à aller regarder ce qui se passe au niveau des retraités qui vivent au Portugal.
Ça se fait automatiquement, tout fonctionne, tout va directement au fisc.
Ben, ça permet de faciliter les démarches et ça permet aussi de faciliter le contrôle quand il y a besoin d'un contrôle. Faut le voir des deux côtés. Ça facilite les démarches pour les assurés, les futurs retraités et les retraités, et ça permet aussi aux administrations de mieux contrôler quand il y a besoin de contrôler.
Oui, il y a des contrôles aussi. Bon, on parle beaucoup de la fraude sociale, mais quand on voit la dette des entreprises, l'URSSAF, etc., etc., c'est faramineux. Bon, c'est un autre thème, mais ça sera avec vos collègues des impôts, effectivement. Alors, si on peut se résumer un petit peu. Donc, je les appelle comme ça, 3e journée internationale en formation retraite franco-portugaise du 3 au 5 novembre. Exactement, bon, alors les horaires, quitte à faire, c'est les deux matins et l'après-midi avec une coupure pour le déjeuner. Tout le monde a besoin de se reposer. Alors, peut-être rappeler, Philippe David, où s'inscrire. Alors, l'inscription est indépendante de notre espace personnel, ça concerne l'assurance.
Si on a un compte personnel, c'est d'autant plus facile parce que du coup, on va pouvoir.
Forcément, parce que.
On peut aussi s'inscrire sans avoir de compte personnel. Le système permet l'inscription qu'on ait ou pas un compte. C'est encore plus simple et encore plus rapide si on a un compte personnel sur l'assurance retraite. Le plus simple, probablement, c'est d'aller sur l'assurance retraite Île-de-France. Vous verrez dans les actus ou dans l'agenda, c'est un des rendez-vous parce que les inscriptions viennent d'ouvrir. Ça a du succès. Inscrivez-vous uniquement sur rendez-vous. Ça a une vraie utilité, on l'a dit. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est pas pour tout de suite, c'est pour le mois de novembre. Mais on sait que voilà, après on vous fera un petit rappel et puis comme ça vous bloquez ça dans votre agenda. Je vais pas donner l'adresse, mais c'est une adresse qui est mondialement connue dans le 19e et vous serez bien reçu par 12, les collègues
12 rue de Joinville à Paris des Avions, métro 7 station Crimée, bus ligne 54 et 60.
On ne vient que si on a rendez-vous.
Hein. J'ai tout ce qu'il faut.
Mais que sur rendez-vous, c'est important parce que du coup ce qu'on disait tout à l'heure avec Pedro, c'est qu'on peut préparer les dossiers et comme ça on vous découvre pas le moment venu, on gagne vraiment du temps et les gens qui partent, je pense pas dire de bêtises, sont vraiment ravis de l'accueil, des informations et des conseils qu'ils ont obtenus quand ils sont venus nous voir.
Alors il y a un conseil quand même que vous avez donné, c'est que si vous avez déjà bénéficié d'un rendez-vous sur une édition précédente, des journées internationales, vous avez, vous risquez d'avoir votre rendez-vous annulé.
On va privilégier les gens qu'on n'a pas rencontrés. Je dis pas qu'on fermerait complètement la porte, mais en effet, on est plutôt demandeur de rencontrer des personnes qu'on n'a pas encore vues, pour qui il y aura une vraie utilité, et on sait qu'il y a de quoi faire. Donc, en effet, si vous ne l'avez pas fait, que vous ayez 55 ans ou peut-être 65, peut-être que vous continuez à travailler, vous êtes artisan, commerçant, salarié, vous continuez à travailler, surtout n'hésitez pas à le faire, vous serez ravis de tout ce que vous allez pouvoir apprendre.
Alors, les rendez-vous de 8h30 à 12h et puis de 13h à 17h. Alors, chose qui est très importante, au cas où on se désiste. Bon, c'est pareil que dans une consultation avec un médecin, on n'y va pas et on dit rien. Donc, y a désistement, là, il faut quand même communiquer et contacter l'assurance retraite.
C'est quand même mieux, mais les gens le font, mais c'est vrai que c'est mieux de le faire, en effet, puisque comme on s'organise et qu'on a un planning de rendez-vous, pour les collègues de la Caisse Portugaise, pour les collègues de la complémentaire,
oui, parce que
et pour
ont
nos collègues,
ils sont là.
Il faut être sûr, voilà, les gens viennent parfois un peu en avance, pour qu'on puisse jouer le jeu de respecter le planning, il faut qu'on soit au courant, et en effet, si pour une raison ou une autre, et ça arrive, malheureusement, on peut pas venir, on se manifeste, on fait un petit message, il y a une petite adresse mail qui sert uniquement à ça, pour prévenir en effet qu'on pourra pas honorer le rendez-vous.
eri-franco-portugaise@knavsnav.fr.
C'est ça.
Bon, tout est dit, je pense, de notre côté. Alors, Pedro Vasco Pacheco, maintenant je vais vous demander, vous pouvez parler portugais, aucun souci, ici on saute une langue et une autre, justement pour lancer un appel à nos auditeurs par rapport à ces journées, l'importance que ça a, parce qu'après on dit « Oh, je n'étais pas au courant, personne ne m'a aidé, etc. 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 » On connaît les plaintes. Bref.
Ouais. En français, seulement un petit mot, profite. Aproveitem, porque é um momento em que podem ter não só uma facilidade muito maior ter um contacto direto com os nossos colegas da CNAV e da Agicarco. Já agora ainda não sabemos ao certo se a MSA vai estar presente ou não. Vai depender das inscrições. Se alguém se inscrever que seja da MSA, eles em princípio também estarão disponíveis.
MSA é
a Caixa Agrícola. Sim, sim. E eu diria tão importante quanto isso é o facto de terem a oportunidade de terem o acesso aos conselheiros do Centro Nacional de Pensões aqui em França. Portanto, muitas vezes as pessoas queixam-se de que, como estão afastadas de Portugal, naturalmente estão em França, têm alguma dificuldade em tratar de assuntos de segurança social. Aí eu posso dizer, puxando a brasa à minha sardinha, pois contactem, é para isso que eu cá estou. Mas, neste momento específico das jornadas de pensões, aproveitem pelo facto de terem aqui os conselheiros do Centro Nacional de Pensões, não só para poderem ajudar-vos neste percurso, digamos, é uma palavra que gosto muito aqui, do côté français, le parcours, que é necessário fazer para chegar a um momento da reforma com a maior tranquilidade possível, que é o que todos desejamos, mas também, ao falarem com os nossos colegas do Centro Nacional de Pensões, conseguirem colocar questões que às vezes surgem um pouco em última da hora, alguma dúvida, uma lacuna na carreira, etc. Portanto, é um momento Eu não vou dizer único, porque já se repetiu, mas é um momento, normalmente não se repete mais do que uma vez por ano. Portanto, aproveitem esse momento, abusem, porque senão terão que esperar eventualmente mais um ano para termos esta oportunidade de ter aqui o nosso colega do Centro Nacional de Pensões à mão de semear.
C'est le cas de dire. Alors, Philippe Paville, je me rappelle les premières journées. D'autant plus que j'ai passé deux, trois jours là-bas, hein, faire des reportages, etc. J'ai fait ce qu'on appelle des pré-papiers et tout et tout. Et chose étonnante, c'est que les premières journées, il y avait plus de possible, c'était plus possible de prendre rendez-vous parce que vous avez été envahi d'inscriptions. Dans la deuxième année, je pense que bon, là-dessus, bon, il faut quand même reconnaître, Radio Alpha sert à quelque chose là-dessus.
Alors. On l'a vérifié puisque lors des dernières journées, on a demandé aux gens pour comment ils avaient eu l'information. Et en effet, c'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous et de faire cette collaboration. C'est qu'en effet, ça a vraiment fonctionné. Le fait de donner l'information sur votre antenne a permis que les gens viennent nous voir. On est ravis. On n'a rien à leur vendre. On n'a que des bons conseils et on va les aider. Les caisses de retraite, elles ont tout à gagner à rencontrer les assurés. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je vais reprendre l'expression de Pédo. Pour profiter, c'est vraiment un moment privilégié. Si vous avez un projet de vous expatrier au Portugal, si vous avez travaillé au Portugal, venez poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Il y a juste des systèmes qui sont un peu compliqués. Mais vous aurez les bonnes réponses et les bons conseils. C'est gratuit, sur rendez-vous. Et on sait que les auditeurs et les auditrices de Radio Alpha seront au rendez-vous.
Voilà, et surtout que partir à la retraite sans angoisse, pour plusieurs raisons, hein. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent partir à la retraite, parce qu'on n'a pas parlé encore de quelque chose, bon, mais ça sera rapidement, Philippe Bainville, parce qu'il y a des Portugais aussi qui cumulent emploi-retraite. Bon, alors, ils cotisent pour tout, droit à rien. Bon, pas de chômage, pas de sécurité, si on tombe malade, bon, bah, on n'a pas de mobilité et tout et tout. Est-ce que, rapidement, si vous pouvez nous renseigner, est-ce que ces années-là, qu'on travaille, qu'on cotise, même si on est déjà retraité, est-ce que ça va donner un petit plus au niveau du montant de la retraite?
Le cumul emploi-retraite, c'est pas un dispositif qui est simple, mais on va dire qu'avec la réforme 2023, ça a créé une nouvelle possibilité. Les gens qui travaillent, qui font du cumul, c'est-à-dire qui travaillent pendant qu'ils sont à la retraite depuis 2023, s'ils sont partis à l'âge légal avec tous les trimestres, en effet, depuis 2023, ils se sont ouverts un droit à une nouvelle retraite. Par contre, comme toujours, il faut se manifester auprès de nous pour la demander parce qu'elle n'est pas automatique, il n'y a aucune retraite qui est automatique. Donc, il y a cette possibilité-là. Je ne parle pas des changements à venir en 2027.
Non, mais ça, on attendra.
On attendra, mais en tout cas, toutes les personnes parties depuis 2023 qui avaient, ou qui travaillent depuis 2023 et qui sont peut-être parties avant, et qui font du cumul pendant leur retraite, vont avoir droit à une nouvelle petite retraite.
Est-ce que, font du cumul avant 23?
Alors, on ne prendra en compte que le travail depuis 2023.
C'est-à-dire
que
donc les autres années, ouais, c'est...
La règle a été décidée en septembre 2023. On peut revenir jusqu'en janvier 2023, mais ce qui a été fait avant, en fait, ça permet d'aider le système. Hein. On peut l'expliquer, faire de la pédagogie. Quand on travaille, on cotise pour payer les retraités, pour payer les retraites de ceux qui sont déjà à la retraite. Quand on est au cumul, on fait un peu des deux. Et il y a cette nouvelle règle qui permet à certaines et certains d'avoir une nouvelle retraite, mais en effet, faut cotiser pour que le système, il y a beaucoup de retraités, il y a un peu moins de gens qui travaillent, c'est quand même important de se rappeler que c'est comme ça que ça fonctionne.
Voilà, donc tous ceux qui ont cumulé l'emploi retraite avant 2023, hein, vous êtes solidaires doublement. Vous touchez une retraite, mais vous aidez les retraites des
exactement.
Autres. Philippe Bainville, merci d'être venu. Je sais que c'est un dimanche. Personnellement, je pense que vous avez dit, oui, il faut que j'y aille. Merci d'être venu. On
merci
va
infiniment.
Maintenir le contact. Et bien entendu, bon, avant les vacances, je vais vous appeler par téléphone, demander de votre aide, etc. Au début septembre. On va revenir, puisque l'inscription, c'est jusqu'au 14 septembre.
On peut profiter, en effet, début septembre, et j'en profite, vous êtes invité. Venez nous voir aux journées internationales d'information retraite. La Radio Alpha sera la bienvenue.
On ne manquera pas. Et quand ce qui nous concerne, Pedro Vasco Pacheco, on se donne rendez-vous, bon, peut-être un peu plus tôt, hein, ou à peu près à la même heure, dimanche prochain, on sera à la fête de Ponto Combo.
Oui, oui, mais je serai là. Je pense que cette année, on va avoir quelques surprises.
Vous avez un stand déjà.
Oui, oui, oui.
Vous êtes là samedi et dimanche. Hein.
Oui, 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 je serai là samedi et dimanche. Je peux dire aussi que le vendredi, je serai dans un autre événement portugais, la fête d'artisanat de Senon.
Dehors de Bordeaux.
Oui, oui, c'est ça.
On mange bien là-bas, monsieur.
Okay.
Et on boit encore plus. Okay. Bon, avec modération, pardon.
Oui, mais je ne sais pas si Radio Alpha sera là, mais sinon...
Non, malheureusement, d'ailleurs, on a des auditeurs, quand je parle bien, à Lille, Lyon, Strasbourg, Monaco, Côte d'Azur, on arrive même jusqu'à Marseille.
Ok, pas encore à Bordeaux.
Non, malheureusement, non, on ne fait pas encore la route.
Oui, je ferai ma partie de publicité, la Radio Alpha pour là. Mais quand même, oui, c'est très vrai, je serai à Ponto Combo et je pense qu'on aura l'opportunité de parler un peu ensemble sur la radio pour donner des informations importantes pour notre ressortissant portugais qui sont vécus ici en France.
Voilà, peut-être avec des nouvelles, des scoops, on ne sait jamais. Oui. Merci Philippe Invide, merci Pedro Vasque.
Merci.
Et à très bientôt. Et nous, on revient après le top horaire des 13h.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem Nível, neste domingo, dia 17 de maio, emissão Lembro, com redifusão na noite terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. É bem, há plenas coisas, hein? Há teatro, há poesia, há música, há performance, há plenas coisas, e on va parler, bien entendu, de la 19e edição do Festival Parfum de Lisbonne. Le prologue, ça sera le 20 mai à la Cité Universitaire du Portugal, mais à la Maison du Portugal, André de Gouveia, à partir de 19h. Gastel Schanch, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Alors, bon, je vais revenir, si vous me permettez, 3 ans avant, je vais revenir en 2023. Là, vous avez fêté 40 ans, oh là, c'est plus que l'âge de raison.
40 ans de la compagnie théâtre.
La compagnie, oui. Kaila, oui.
Oui. Et l'année prochaine, ce seront les 20 ans du festival aussi.
Oui. Oui, tout à fait. Le 20e anniversaire, bon, il est déjà majeur et plus que majeur. Alors, mais peut-être ça vaut la peine de revenir en arrière. Quels étaient les objectifs quand vous avez décidé de créer ce festival Parfum de Lisbonne?
Alors, c'était vraiment l'idée de mettre en lien à la fois ce qu'on appelle la recherche et la création, c'est-à-dire... faire à la fois des productions, produire des spectacles, des performances, mettre en lien toute forme disciplinaire, c'est-à-dire la littérature, dans tous les genres, d'ailleurs, théâtre, poésie, etc., mais aussi les arts plastiques, la danse, le cinéma. Et c'est pour ça que c'est devenu un festival, parce qu'il y a plusieurs arts qui sont là à représenter, mais avec toujours l'idée de croiser deux langues, la langue française et la langue portugaise. Je dirais même les pays de langue portugaise, mais quand même deux capitales, la capitale, donc Paris et Lisbonne. Et donc c'est dans cette idée de mouvement qui est très liée aussi au nom de la compagnie, puisqu'on s'appelle Kaila, ce qui veut dire ici et là-bas, mais c'est pas seulement ici et là-bas, le Portugal et la France, c'est aussi globalement le mouvement. Ça a toujours été pour nous, et aussi ici la réalité, et là-bas l'imaginaire. Donc c'est cette idée de mouvement perpétuel entre un contenu divers et aussi des formes de représentation diverses, puisqu'on travaille beaucoup la poésie performée, croisée aussi avec la danse, etc.
Voilà. Oui, cinéma, poésie, musique, d'ailleurs, il y a une collaboration pérenne avec MK2 Beaubourg. Bon, on va en parler un petit peu. Mais alors, une question discrète. Parfum de Lisbonne, mais au Portugal, il n'y a pas que Lisbonne qui existe?
Ah, mais on est allé à Porto. Nous sommes allés à Porto au Museu Soares dos Reis. On avait fait des séances extraordinaires. Et d'ailleurs, à cette occasion, on avait avec nous Tahar Bekri, qui est un poète tunisien, qui écrit beaucoup aussi sur le Portugal d'ailleurs. Et donc, on avait mêlé la langue arabe. Il y avait Anaïs Amaral, d'ailleurs, avec nous, cette grande autrice et poétesse portugaise qui est décédée prématurément. Et donc, on a un travail... voilà, il se trouve Lisbonne, c'est aussi par un coin de sens. Le festival s'est toujours créé avec une communauté d'amitié artistique, d'amitié de pensée de commune, voilà, de choix aussi commun. Et donc, c'est un peu comme une sorte de communauté autour de notre façon de penser les arts, les langues, la vie, en fait.
Alors, le thème de cette année, transmission, transmissões. Alors, ce thème, il est basé sur un projet Jeunesse Méditerranéenne Mobilité?
Oui, moi je suis vice-présidente culture de mon université. Et
Paris-Nanterre.
Exactement, l'université Paris-Nanterre. Et donc, j'ai porté au nom de mon université un projet dans le cadre de la saison Méditerranée qui est définie par l'Institut français. Et donc, ce projet, donc avec ce titre, Jeunesse Méditerranéenne Mobilité. Et alors, tous les thèmes proposés par cette saison correspondent pratiquement à la fois à l'identité de mon université et aussi avec ce que nous faisons à Kaela et avec les parfums de Lisbonne. Donc là, cette année, c'était beaucoup lié à la question migratoire, au plurilinguisme, à l'exil, à toutes ces thématiques aussi qui sont fortement politiques d'ailleurs. Et donc voilà, et les transmissions, c'est-à-dire les transmissions générationnelles. Et donc tout cela, nous allons le traiter dans mon université, et tout autour d'ailleurs aussi dans la ville de Nanterre, à la Cité internationale, à Paris aussi, et avec diverses maisons du Maghreb, et puis la maison du Portugal. Mais nous allons aussi, nous avons décidé donc que cette année, le festival, bien lui aussi, il irait vers ces thématiques.
Et d'ailleurs, c'est important parce que bon, je pense qu'on avait déjà parlé de cette question, l'héritage et la mémoire. C'est bien beau, mais faut-il encore les transmettre?
Oui. Justement, on avait eu une séance au consulat du Portugal avec l'ethnosociologue Elsa Ramos, autour de son livre qui s'intitule « Un anthropologue dans ma famille, mener une enquête dont vos grands-parents sont les héros ». Et on avait fait justement une performance avant, une performance artistique. Et ensuite, il y a eu un grand débat, elle a présenté son livre. Et c'est vraiment le fondement même de ce que nous projetons cette année. C'est-à-dire comment aussi redonner vie parfois à des choses, des mémoires, soit qu'on a oubliées, certaines d'ailleurs qui sont effacées. Comment est-ce qu'on revient sur ces mémoires-là pour pouvoir se construire au présent? Et surtout pour que ces personnages qui ont marqué nos vies, ces mémoires qui ont marqué nos vies, elles ne s'effacent pas. Voilà.
Alors, apparemment, la poésie, bon, c'est ça qui va servir de base de démarrage, si on peut le dire, parce que là, la poésie dérive de la Méditerranée. Et là, c'est important parce que, bon, là, il y a... C'est la poésie d'auteurs de différentes langues. Vous allez mélanger toutes ces langues-là. Comment ça va se passer?
Alors, on aura des textes qui sont... Alors, de José Luis Peixoto, qui est un romancier, c'est un auteur, mais il a aussi une très très belle poésie. Donc, il y aura lui qui sera un peu au centre de ce que nous produirons par rapport à la langue portugaise. Il y aura Clara Isley, qui est une grande... chanteuse elle fait aussi elle est aussi autrice et elle y a autour d'un de ses poèmes qui s'intitule On inventera une langue. On aura Philippe Artière qui lui est un sociologue, Camille Lefebvre qui est une historienne, Caroline Dawson qui est une romancière. On aura des extraits de Joseph Viel, du livre qu'il a publié chez Chandaigne. On aura des textes de Didier Ribon, mais aussi Jacques Prévert, par exemple. Et aussi, ensuite, des chansons aussi. On reprend des chansons que nous, on remet un petit peu, on retravaille un peu à notre façon. Et c'est un ensemble polyphonique. C'est-à-dire que ce sera, notre langue ici en France de communication sera essentiellement le français, avec bien sûr des pointes de portugais. Et quand on va au Portugal, ça s'inverse. C'est-à-dire que la plupart, nous traduisons, et tout passe vers le portugais avec des inserts en français. Et donc, disons que, mais notre souhait n'est pas de nous cantonner seulement ou à la littérature, aux auteurs français ou portugais, mais aussi d'ouvrir plus largement. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont finalement les thèmes. Et ces thèmes qui sont des thèmes finalement qui nous sont communs, qui n'ont pas de nation pour nous. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, nous considérons aussi que la langue, la poésie, n'a pas vraiment de langue en fait. La poésie, elle est universelle, et c'est aussi pour cela que nous utilisons beaucoup la poésie pour nos spectacles.
En effet, elle a sa propre musique, c'est le cas de le dire. Et tout à l'heure, vous avez parlé de Jean-Louis Peixot. Il a la particularité d'avoir un roman qui parle d'immigration portugaise parce qu'il a vécu en France quand il était petit. Il ne faut pas l'oublier.
C'est son père qui a vécu en
son
France.
Père, mais
lui, en fait, il est resté chez ses grands-parents. C'est le livre. Ah, ce livre s'appelle Livro. Et là, nous, on va surtout utiliser pour notre spectacle une anthologie qui a été traduite chez une éditrice qui s'appelle Latiner. Et c'est l'enfant en ruine, la maison, les ténèbres, le tiroir de papier. Et c'est vraiment un très très beau. C'est traduit par Vanias Cyril Almeida Rego. Et c'est vraiment un très bel ouvrage, très bien traduit. Et là, on voit aussi la portée, c'est-à-dire que la poésie vraiment, ça nous conduit vers d'autres mondes. Ça nous permet de nous libérer parfois, justement de l'univers sombre qui est le nôtre aussi actuellement.
Alors, bien entendu que la compagnie Kaela va être présente, mais je veux parler aussi, quand on parle de la danse, Alice et Adrien Martins, très important. Oui. Toujours notre conseiller en chef, j'aime en acheter au niveau de la littérature. Alors, il y a Mariana Marques, Gonçalo Cordeiro, Leonardo da Silva e Castro, Ana Mirabella, Erivane Ferreira, mas disons justement, étant donné que le caractère multilingue de transmission. Et donc, finalement, dans les sessions publiques, vous allez pouvoir agréger un certain nombre de personnes complètement différentes, acteurs, artistes, étudiants.
Oui.
Donc,
ça
veut dire que... bon, mais tout ça, c'est programmé ou est-ce qu'il y aura un petit peu d'improvisation?
Alors, nous, on travaille beaucoup. Alors, ce que nous faisons, le travail performé autour de la poésie et de la littérature ou d'autres types de textes, ça, nous le travaillons beaucoup. Ce que nous faisons, c'est que nous donnons à voir la lecture des textes. Alors, il y a une partie improvisée, ils ne lisent pas tout, mais c'est très important aussi pour nous, pour inciter à la lecture et de donner, d'avoir, ils ont les pages, les textes sont visibles, ils sont là. Et ensuite, effectivement, ce sont des personnes d'horizons différents, parce qu'à la fois, il y a des étudiants de Paris-Nanterre, il y a aussi là un doctorant brésilien qui travaille, que j'ai en co-tutelle et qui est de passage, et donc voilà, il amène tout à fait un autre apport, il a une autre expérience. Et on a une collègue aussi qui s'appelle Anna Mirabella, qui est une collègue italianiste et qui est de l'université de Nantes, mais que voilà, on s'est croisés sur d'autres choses. Et en fait, il y a une sorte, on est comme ça, on se réunit parce qu'on a une communauté de volonté de partage de pensée et de vouloir être vivant, physiquement, de dire physiquement ce que nous pensons et de donner corps finalement à notre pensée et à la littérature et à tous les textes que nous utilisons. Et c'est ça qui fait qui nous rend, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est un peu comme une famille, un peu, hein. On est là, on fait d'abord de briques et de brocs, hein, on construit avec des extraits, et ensuite, une fois qu'on a fait le montage de tous ces textes, on a le sentiment que ce n'est qu'un texte, alors qu'il est vraiment fait à la dentelle, vraiment recousu de toutes parts.
La dentelle, la dentelle. Alors, pour le programme, et grâce à Chance, bon, le mieux, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver tous les détails, samedi 20 juin, mardi 23, samedi 27, etc., le 28, le 30, bon, je pourrais continuer comme ça, après, au mois de juillet, ça sera à Lisbonne, mais juste, le programme, bon, le détail, ce serait impossible, bon, bien qu'on peut revenir dessus, parce qu'il y a des choses importantes, et je voudrais peut-être parler deux choses, d'un film et après de ce qui va se passer avec oui. le groupe Usine du Travail du Ator
oui.
Porto Alegre. Déjà, c'est un film d'une jeune réalisatrice, Laure Carrère, Unfailing. Unfailing, bon, c'est le vécu d'une ouvrière dans des conditions de travail extrêmement oui. particulières. Et ça, c'est un choix. Pourquoi avoir choisi ce film?
Alors, vraiment, en fait, les films, je les choisis, durant toute l'année, je vais voir la plupart des choses. Et c'est, alors, Unfailing, c'est vraiment, lorsqu'on parle, là, on a la sensation que finalement, qu'est-ce que c'est pas la Méditerranée. Et pourtant, si, parce que ce sont toutes ces personnes, ça se passe à Londres, et toutes ces personnes qui travaillent, c'est comme chez, je vais pas citer, mais comme chez Amazon ou des choses comme ça, où ce sont des personnes de tous les pays, ce sont bien sûr des migrants, là, pour la plupart, qui sont là. Ce film, il est très frappant parce que, d'abord, il est produit par Ken Loach, ce qui veut tout dire donc sur la, aussi la couleur hein, de ce film. Il m'a beaucoup frappée sur la... Voilà, moi, nous enseignons à Nanterre, on a des jeunes étudiants qui sont obligés de gagner leur vie difficilement parce qu'ils n'ont pas de bourse, etc. Et là, c'est exactement ça, c'est une jeunesse qui est, excusez-moi l'expression, cramée par le capitaliste actuel et donc c'est vraiment ça qui est au cœur de ce film avec une réalisation mais vraiment incroyable, très talentueuse. La comédienne principale, elle est vraiment, enfin, c'est un film qui est renversant et qui ouvre nos yeux sur cette réalité là. On est quand même dans un monde où on se fait tout livrer à la maison et où on oublie qu'il y a des personnes qui travaillent derrière ces livraisons et tout ça. Donc là vraiment c'est un film qui me semble urgent. Voilà, et c'est pour ça qu'il est dans notre programmation.
Oui, alors ça sera le samedi 27 comme à 11h, MK2 Beaubourg, et il va y avoir un débat avec Régis Solado. Alors, j'ai parlé du groupe Usine du Travail du Ator, théâtre de Porto Alegre. Bon, ça va être au mois d'octobre, mais je pense que ça vaut la peine. De quoi il s'agit exactement?
Alors, c'est un collègue à moi qui s'appelle Gilbert Wickle, avec lequel je travaille depuis 2013, et qui est à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul, et qui est aussi acteur. Il est un peu on a un peu le même profil, c'est-à-dire que à la fois on est des artistes, en même temps des chercheurs et des enseignants, et on a une communauté autour de nous qui est liée aussi aux étudiants avec lesquels ils travaillent, qui deviennent aussi des acteurs. Et donc leur groupe s'appelle Usine Théâtre. Et ils ont travaillent toujours aussi très en lien avec les diverses communautés de la ville de Rio Grande do Sul. Donc c'est un théâtre très engagé, mais extrêmement vivant dans la façon dont c'est joué, c'est dansé, c'est merveilleux. Et donc voilà, et donc j'ai eu l'occasion de pouvoir les recevoir donc au mois d'octobre et ils vont être là. Alors en général, on a déjà reçu plusieurs groupes brésiliens. Ça fait déjà 3 ans que nous le faisons. Et là, cette année, en fait, tous les ans en général, on fait 2 séances. Une séance tout public et une séance plus pour le lycée Montaigne, où il y a les élèves du lycée Montaigne qui viennent assister au spectacle. Ce qui permet d'avoir aussi une ouverture différente sur un public différent.
Et ça, je pense que c'est très important, justement, le lien avec les jeunes d'origine portugaise ou autre. Je prologue. Bon, tout commence le 20 mai prochain, la semaine prochaine, à 19h, la Maison du Portugal. C'est le prologue de la 19e édition, donc, du Festival de Parfums de Lisbonne. Je dirais que le 20, on va avoir un petit parfum de ce qui va se passer après.
C'est ça. Alors, le 20, en fait, non, c'est toujours un prologue parce que c'est une séance un peu particulière. Mmh. On peut presque toujours en plus en petit comité où on présente. On pré-présente ce qu'on a préparé et on débat vraiment profondément avec le public. Donc c'est une séance un peu expérimentale. Là, c'est mercredi et les personnes qui viennent seront vraiment reçues avec plaisir. Et ensuite, vraiment le lancement, ensuite en pétaradant, je dirais, ce sera le dimanche 14 juin. Et la veille, on a aussi le premier film au cinéma MK2 qui est Covers of a Rose.
Ah, quand voilà. Vous... ah ben, à ce moment-là, je vais ressusciter l'interview que j'ai fait avec son metteur en scène, mais également avec un acteur et agriculteur, justement, de Corvège de Borouze. Et d'ailleurs, la situation se complique. Merci, grâce à Tchunch, et tout de suite, peut-être vous pouvez l'écouter, on va écouter la bande-annonce du film Benzo de Margarida Cardoso, justement. Alors, bon, son film a eu a été distingué en 10 des catégories des prix Sofia au Portugal. La cérémonie a eu lieu il y a 2-3 jours. Donc Sofia 2026, 10 prix justement pour ce film très important. Ça se passe dans les années 1910 par là, dans à Saint-Thomé. Caro, Ross, esclave, etc., etc. Mais, bon, ça serait un film à faire en débat l'année prochaine, peut-être, pour la 20e édition. On verra.
Pourquoi pas? Ouais.
Merci, grâce
merci
à Tchunch.
Merci beaucoup,
merci. Et justement, on va écouter la bande-annonce de Benz.
Estão todas prontas? Trabalhar. A fingir que trabalha.
O mal não se deixa fotografar facilmente. Temos de dar uma ajuda.
Porque choro, porque canto, não posso nem sei dizer. Canto para não chorar, canto para não morrer. Sou triste, todos o dizem, mas ninguém sabe a razão.
Eu gostava de falar com as pessoas. Não.
Mesmo que nós falássemos, o que ia mudar?
Se as pessoas não querem comer, se querem morrer, eu preciso de saber porquê.
Mandaram-vos diretamente para o céu, doutor.
Eu posso garantir-lhe que aqui não há nenhum serviçal sem contrato assinado.
Sabe o que mais me surpreende? A facilidade com que começamos a agir segundo as leis deste lugar.
Temos uma nova remessa a chegar brevemente. O meu medo é que isso se transforme numa pandemia. Eles ponham em contacto com os outros.
Não há nenhum medicamento, nenhum tratamento. Os que se atiram ao mar... nunca mais os vemos. Vão para lado nenhum. Dizem.
E não quero ficar com as fotografias.
Nunca vá com aquilo. Vai na veta.
Será que eles sabem que vão para lado nenhum?
Un extrait, la bande-annonce du film Benzo de Margarida Cardoso. Eh bien, au festival de Sofia au Portugal, il y a 2-3 jours, Evelyn, 10 prix, justement, pour ce film, qu'on peut d'ailleurs le voir à partir des plateformes. Je ne vous dis pas exactement quelles plateformes je vais chercher, donc. On va quitter le cinéma et on va parler de littérature, bien que ça passe aussi par le théâtre.
Burning in a lute into dark. Burning in a lute into dark. Burning all pollution to dark. Burning all illusion to dark.
Un extrait de la bande-annonce de Rimbaud, pièce de théâtre, qui est d'ailleurs la première fois qu'elle a été représentée, c'était au théâtre du Bayreuth, spectacle qui a été créé au théâtre du Bayreuth en 2021 à Lisbonne. Victor d'Oliveira, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci Victor d'Oliveira d'être avec nous. Alors, Rimbaud, ça a commencé par un texte littéraire.
c'est devenu une pièce de théâtre. Et maintenant, on dirait que ça revient aux sources, parce que Limbo, justement, a été publié par Chandaigne et Lima avec une préface de Sylvie Chelet. Justement, donc, c'est quoi, c'est que bon, c'est un besoin, parce que apparemment, c'est vrai que bon, vous aviez écrit un texte, mais il était trop long, trop riche pour le mettre sur scène, ou pas?
Non, en fait, le texte a été écrit pour la création du spectacle.
Ah,
donc, il a d'abord été. Enfin, je savais que je voulais créer un spectacle autour des thèmes que j'explore dans Limbo, et voilà, j'ai commencé à écrire pour le spectacle. Donc, au fur et à mesure de temps d'écriture, des plusieurs raisons d'écriture que j'ai pu avoir, donc un choix a dû être fait, et au fur et à mesure des répétitions aussi du spectacle, donc ce choix s'est peaufiné. À la fin, donc, puisqu'il s'agit d'un monologue, donc d'un solo, je savais que je ne voulais pas dépasser plus d'une heure et quart, donc il a fallu faire un travail, donc pour faire en sorte que dans cette heure et quart de spectacle, voilà, les choix des textes sélectionnés soient le plus juste par rapport à ce que je voulais faire sur le plateau. Donc ensuite, donc le spectacle a été fait, vous l'avez bien dit, donc il a été créé en 2021 au théâtre de Bayreuth à Lisbonne. Il a depuis été en tournée, il est toujours en tournée, donc il sera encore en tournée la saison prochaine, mais et donc il a passé par le Portugal, la France, encore cette saison en banlieue parisienne et la saison dernière au Théâtre National de la Colline à Paris, dans d'autres lieux aussi au Portugal comme Guimarães, Braga, et voilà, il va continuer, mais après la création du spectacle, ce que je sentais, ce qu'on me disait, ce que beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, déjà il y avait la question de savoir si les textes avaient été édités. Je disais à chaque fois que non, malheureusement, ils n'avaient pas encore été édités. Et ensuite, à partir du moment où j'ai commencé à parler avec Anne Lima, qui dirige les éditions Chandaigne et Lima, il nous est apparu enfin que c'était pertinent d'arriver à trouver une forme pour l'édition, donc une forme littéraire, puisqu'il s'agit quand même d'un récit, et dans cette forme littéraire, bah, d'autres textes pouvaient être possibles. Donc, et voilà. Et ensuite, je suis allé voir dans les textes que j'avais, qui n'avaient pas été joués, quels étaient les textes qui pouvaient être amenés, et on a pu composer comme ça ce qui est devenu l'édition qui va être lancée ce mercredi.
Le 21,
le 21, le jeudi d'ailleurs, donc à la librairie portugaise et brésilienne Paris.
Alors, je veux dire, j'avoue à nos auditeurs et à Vital d'Oliver aussi, j'ai pas eu le livre en main, puisqu'il y a un retard au niveau de l'imprimeur, et donc le livre n'arrive que le 19. Ça, c'est très important, moi je le dis, hein, je le reconnais, en règle générale, je parle pas d'un livre avant de l'avoir lu, etc., etc., mais on a eu l'occasion, quand la pièce a été commencée à être représentée à Paris, Limbo, on a eu l'occasion de parler. Alors, est-ce que, bon, avant de parler du contexte, parce que le contexte, évidemment, on revient au Mozambique, on revient aux origines, et d'ailleurs, bon, je sais, je fais une citation, hein. Pour mon père, né en 1936, fils de blancs et de noirs, de colons et de colonisés, comment accepter d'être né à une période où il était considéré inférieur à son père et supérieur à sa mère, point d'interrogation. Est-ce qu'on peut dire que Limbo vient, finalement, fait partie d'une trilogie? Parce qu'on a vu Les Sables de l'Empereur, Kumina. Et Limbo vient par la suite, finalement, il y a une suite logique, s'agit d'une trilogie ou pas, Vital d'Oliver?
D'une certaine façon, oui, puisqu'en fait, ce sont des sujets qui sont forcément liés entre eux. Donc, il y a, comme vous avez dit, donc cette question liée donc à la colonisation, liée à mon parcours, puisque je suis né au Mozambique encore pendant la période coloniale. Mes parents également, nous sommes tous et toutes des métis. Donc, mon grand-père, dont mon nom de Oliveira, était un blanc portugais qui est allé au Mozambique pour la guerre de 14-18 et qui est resté, qui s'est mis avec ma grand-mère. Donc, vous voyez, enfin, toutes ces histoires-là qui sont liées, évidemment, à l'histoire du Portugal et des Portugais pendant la période coloniale. Donc, et tout ça, forcément, amène à d'autres sujets, comme des sujets que j'explore plutôt dans Limbo, qui c'est donc la question des origines, la question du déracinement, la question évidemment de tous les problèmes intergénérationnels qui viennent ou qui sont liés à la colonisation et à décolonisation, tout ce qui est lié évidemment à la place et aux problématiques de ceux qu'on appelle aujourd'hui les afrodescendants. Donc voilà, tout ça c'est forcément c'est lié. Donc dans les sables de l'empereur, bon, il y avait quelque chose qui était plus lié à l'histoire, avec la présence sur le plateau de, bon, c'est tout l'inverse, puisque dans Limbo je suis seul sur le plateau, dans les sables de l'empereur il y avait 15 comédiens sur le plateau, et il y avait donc un comédien qui jouait l'empereur Gungunyan, un autre comédien qui jouait le sergent le capitaine Mosin Garbkerk. Donc toutes ces, voilà, c'était différent, mais c'est lié à ces histoires. Donc il y a forcément des liens très forts, et qui après dans la forme, évidemment, ce sont des spectacles différents, mais bon, moi je, dans les sables de l'empereur, je m'étais appuyé sur le roman magnifique de Miyakoto qui s'appelle Les sables de l'empereur, et dans Limbo, bon, c'est mon écriture, donc c'est sous une forme d'un récit, disons comme ça, avec des histoires qui sont racontées et qui vont de l'enfance jusqu'à l'âge d'aujourd'hui.
Alors, en Afrique, on vous dit, vous êtes blanc. Au Portugal, vous êtes noir. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que vous avez été touché physiquement, puisque vous avez été victime d'une agression par trois types, justement au Portugal. Et là, bon, c'est le problème, on dit qu'au Portugal, à Brandes Costumes, bon, j'y crois pas du tout, absolument pas, c'est un pays raciste comme tout. Et là, vous dites, bon, qu'est-ce qui se passe, où je suis? C'est là qu'il y a une prise de conscience de votre part, ou pas?
C'est là que la prise de conscience a commencé, disons comme ça. Ça veut dire que, évidemment, quand je suis arrivé au Portugal, j'étais encore un enfant, donc nous avons bien senti, évidemment, tout le racisme, puisque nous sommes arrivés à la période où il y avait beaucoup de colons qui revenaient au Portugal.
Les retournades.
Ceux qu'on appelle retournades. Ouais. Sauf que nous, on n'était absolument pas des retournades, puisqu'on ne connaissait absolument pas le Portugal, on n'avait aucun lien, puisqu'on n'était pas né à rien, on était noir, donc, ou métis, qui est mon cas. Donc, tout ça a fait qu'évidemment, on a subi les premières années tout le racisme qui était présent, et au fur et à mesure, bon, on apprend à faire avec, comme on dit, donc, et on apprend à essayer de s'intégrer du mieux qu'on peut, à assimiler tout ce qu'on nous apprend, mais c'est un peu plus tard, donc plus en tant que jeune adulte, que j'ai vraiment commencé à avoir conscience d'une vraie conscience d'adulte des problématiques et de la difficulté pour les hommes et femmes racisés, comme on dit maintenant, de s'intégrer pleinement dans la société portugaise.
Oui, parce que bon, derrière ça, comme il y a le passé, c'est pour ça qu'on parlait de colonialisme, on parlait de l'esclavage. Justement, c'est que finalement, au milieu de dans cette société, il faut se faire une place lui-même. Et là, c'est très important, parce que bon, j'ai l'habitude de dire tout ce différent, mais tout ce pareil. Finalement, trouver cet équilibre, c'est grâce au théâtre, grâce à l'écriture, que vous avez arrivé. Bon, finalement, bon, mes enfants, il y a des problèmes. Je suis pas le seul à vivre. Bon, essayons de regarder l'humanité différemment, et de justement de mettre cette l'humanité en contradiction avec les principes qu'elle défend et la réalité de la vie de tous les jours.
Oui, il faut trouver un équilibre. Et évidemment, c'est que pour tous les artistes, l'équilibre se trouve dans la forme d'art qui est la sienne. Donc, le mien, c'est le théâtre. Que ce soit en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène ou maintenant en tant qu'auteur, donc évidemment j'essaye de trouver des choses qui m'aident à trouver cet équilibre intime et émotif. Donc parler depuis un moment, donc parler des choses qui me sont proches, parler de l'histoire qui est la mienne, parler du parcours qui est le mien, en essayant de me dire toujours que ce parcours-là, il va, donc il y aura tout un tas de gens qui vont venir voir le spectacle et qui vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire, que vont se reconnaître dans ce que je suis en train de faire. Ça, c'est extrêmement important, parce que si c'est juste raconter mon histoire, ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance quand on part de l'intime vers l'universel, quand l'histoire intime qu'on est en train de raconter, elle peut parler à 600 personnes ou 500 personnes qui sont dans la salle, à tous ceux qui sont là. Donc, quand ils sortent, ils viennent voir quelque chose ou ils prennent un livre, ils le lisent et ce qu'ils sont en train de lire leur parle intimement, même si ce n'est pas leur histoire, mais ils comprennent l'histoire de l'autre et du coup, ils regardent l'autre autrement. Là, oui, là, l'art est important, devient fondamentale dans ce qu'elle peut avoir de ce qui est possible d'éveiller dans le fait de prendre conscience de et cette question de l'altérité, parce que c'est un mot récent pour moi en français, ça veut dire regarder l'autre et l'accepter dans toute sa différence. Ça c'est extrêmement important et c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mes spectacles, dans le dernier spectacle que j'ai fait qui s'appelle Kumina, qui a été présenté, été créé ici au mois de janvier au Théâtre des Quartiers d'Ivry, donc Centre Dramatique National du Val-de-Marne. Kumina parlait aussi de ça, de la façon comment on arrive à regarder l'autre et à l'accepter dans toute sa différence, dans tout ce qu'il ou elle est différent de moi. Et ça, effectivement, dans le monde dans lequel nous sommes en ce moment et vers lequel on tend à aller, j'ai bien peur, c'est quelque chose qui est un peu difficile, puisque j'ai l'impression qu'on s'enferme de plus en plus, qu'il y a quelque chose des sociétés dans lesquelles on est, et pas qu'en France, au Portugal, il se passe exactement la même chose en ce moment, où l'autre, parce qu'il est différent, je le rejette et il ne peut pas entrer dans mon monde, alors que normalement, donc ce qui est beau depuis toujours, c'est justement le fait que nous sommes tous et toutes différents, et pour un pays comme le Portugal, qui est quand même un des pays européens avec le plus grand nombre d'immigrants, donc qui sont partis du Portugal, qui ont immigré du Portugal pendant la dictature, c'est quand même assez un comble d'arriver aujourd'hui à être un des pays où la xénophobie est le plus présente. Donc tout ça, voilà, fait que le théâtre et l'art en général, voilà, ils nous aident et évidemment quand je fais ce que je fais dans mon travail, ils nous aident à comprendre cela, ils nous aident à voir ça. Et j'espère que pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre la beauté et ce qui est intéressant dans le fait de regarder l'autre et de l'accepter dans ses différences, qu'en regardant des spectacles ou en lisant des livres, donc si ils prennent Limbo par exemple, ils vont lire des histoires qui les feront au moins douter et se dire voilà, on est tous différents, mais dans cette différence on est tous pareils,
ni plus ni moins. Et d'ailleurs ça serait intéressant, même vos pièces théâtre et même le livre, justement d'inviter des élèves, des professeurs, parce que ça donnerait pas mal à réfléchir, surtout au Portugal où l'extrême droite raciste, xénophobe et néofasciste est justement ce 12e parti au sein du Parlement portugais. Mais enfin, c'est une autre affaire. Vitor d'Oliveira, je vous remercie. Donc, on se donne rendez-vous le 21 mai à 19h, à la librairie portugaise et brésilienne, 21 rue des Fossés-Saint-Jacques, à Paris 5e. C'est à deux pas du Panthéon. Il n'y a pas à se tromper. Vitor d'Oliveira, muito obrigado. Et comme dirait l'autre, toujours en avant.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde.
Burning in a lantern tonight. Burning in a lantern tonight. Burning all pollution tonight. Burning all illusion tonight.
Limbo, Limbo, um livro de Vitor de Oliveira que acaba de ser publicado, só estará vindo a partir de dia 19 na edição Jondenho e Lima. Mas bem, agora vamos mudar de música. É o caso de dizer, não vai haver teatro, mas vai haver música e vai-se poder dançar até, mas não, quero me referir à 51ª edição da Festa Franco-Portuguesa organizada pela APCL, Associação Portuguesa Cultural e Social de Ponto Combo, mais conhecida por APCS 77, e connosco temos o presidente desta associação, Cipriano Rodrigues. Muito boa tarde.
Boa tarde, Artur. Boa tarde à Rádio Alf e aos ouvintes da Rádio Alf. Obrigado pela tua chamada.
Ora, há que referir que, bom, não estás nos ares de Paris, longe disso, há que referir. Mas não digo segredo nenhum, não divulgo segredo nenhum, pois não.
Não. Nem segredo nenhum. Vim a Portugal para falar da Festa Franco Portuguesa no SIC, por sei que eu estou em Portugal, e amanhã de manhã já regresso à França às 5h30 da manhã.
Sim, graças à pátria, não?
Como à diz pátria.
Para mim, a pátria é aquela que nos dá de comer. Bom, eu não
tenho muita história. É verdade.
Bom, ora, eu sei que o ano passado festejamos o cinquentenário da festa. Bom, 51ª, de maneira que disse, bom, já lá vão 50, vai fazer mais uma 51. Como é que vocês conseguem manter a força? Porque, bom, há uma grande equipa à volta. Aliás, ontem, duas representantes, precisamente da vossa associação, representantes femininas, estiveram aqui para falar da organização. Porque, faço sempre a mesma pergunta: quantas pessoas na organização?
A organização é o Conselho de Administração e alguns voluntários mais chegados.
Não, mas aquilo, eu estou a contar daqueles que trabalham, bom, tu também trabalhas, é evidente, mas enfim, daqueles que estão lá durante estes dois dias, porque mesmo antes há que preparar tudo.
Somos cerca de 150 pessoas.
150 pessoas?
Sim.
Ora,
diz.
Então, importante também é porque vocês têm o apoio total da Mairie de Ponto Combo. Isso é bastante importante porque, para já, esta festa, como já é hábito, é no Parque de l'Hôtel de Vila. Há toda uma logística também que é importante ter do lado oficial da municipalidade, não é?
É isso mesmo, portanto, toda a parte logística, que é a montagem do parque, a limpeza do parque, portanto, a Câmara de Ponto Combo ajuda-nos já. Há 51 anos é esta data, que eles nos ajudam, e cada vez mais, não dão dinheiro, mas dão serviço, e os serviços têm que ser pagos, por isso também tem um valor muito importante. Sem a Câmara de Ponto Combo não poderíamos fazer o que fizemos hoje, porque os custos que tinham que ser com a parte da montagem do parque, nós não podíamos suportar isso tudo. Por isso eu quero agradecer à Câmara de Ponto Combo pela ajuda imensa que nos dão durante todo o ano, não é só na festa, é durante todo o ano. Todo o ano a Câmara de Ponto Combo está ao nosso lado.
Ora, é que eu falei que durante anos e anos a festa era gratuita, mas por motivos de segurança, agora temos que utilizar, bom, já tinha falado disso no ano passado, o chamado QR Code, concretamente, quer dizer, a entrada é feita unicamente sob reserva, não é?
É isso mesmo, portanto, mesmo que a festa seja gratuita, o QR Code é uma obrigação, é uma imposição da Prefeitura de Sena e Marne. Não podemos fazer eventos ao lado de 3 mil pessoas sem termos o QR Code, para eles saberem na hora exata, no momento, as pessoas estão lá dentro, saber o atentado, saber quem é que falta, quem é que falta. E depois nós este ano, o ano passado foram 2 euros que a gente decidimos fazer a entrada pagante para, em benefício da Fundação Sara Carreira. Este ano serão 5 euros, mas os benefícios vão ser repartidos sobre 4 associações. A primeira é a Boldejada para o Tocomor, que é uma associação de crianças. A segunda é a Santa Casa da Misericórdia de Paris, que não tem nada a ver com a Santa Casa da Misericórdia de Portugal. Portanto, a Santa Casa da Misericórdia de Portugal não ajuda a Santa Casa da Misericórdia de Paris. E nós decidimos que essa associação faz tanto bem a muitos portugueses, também merece a nossa ajuda através da festa. A terceira, em colaboração com a cooperação de todos juntos, vamos reverter um bocado dessa soma às vítimas da tempestade em Portugal no mês de fevereiro, ali na zona de Leiria, Vieira, Pedrógão, Orém. E depois uma pequena parte vai ser para a associação, porque nós somos uma associação e cada vez está tudo mais caro, cada vez temos menos ajudas, e para nós sobrevivermos e continuarmos com esta festa, teremos que fazer assim. Mas nós não quisemos pôr 5 euros para ser para a associação. Queremos ajudar outras associações que necessitam e que estão na necessidade, que é o caso daquelas que eu agora me referi, e sobretudo as vítimas em Portugal, em colaboração com a operação de todos juntos, a qual eu agradeço ao Presidente e às pessoas que fazem parte dessa organização, à Rádio Alfa. Vamos reverter um bocado dessa soma através dessa associação, operação todos juntos, para Portugal.
Ora, sábado, das 18 até à 1 da madrugada, vocês respeitam mesmo a 1 da madrugada?
Não? Somos obrigados. Somos obrigados. Todos os anos é assim, à 1 da manhã. Este ano o último vai ser os Demons. Há uma menos 5, já está toda a gente a fazer sinal de que é a última canção. Porque nós atuamos sempre de maneira solidária com o Presidente da Câmara de Portugal para não ter problemas. Há uma hora acabamos com a festa, todos os anos.
Ora, domingo começa mais cedo, às 10h30, aí podem entrar no recinto do Parque do Hotel de Ville, aí vai ser até às 20h. Aqui na Rádio Alfa já se falou sobre o elenco, mas quando começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e podia continuar assim? Vai ser um dia meio cheio, então.
Sim, vai ser, eu acho que vai ser maravilhoso. Há um bocado de músicas de todos os tipos, mais moderna, menos moderna, popular, e depois temos uma coisa boa nesse dia, que há muitos anos não acontece. Vamos ter um fim de semana formidável, 27 graus, sol todo dia, que é maravilhoso para as pessoas poderem vir à festa, merendar, falar, dançar. Portanto, vamos ter um fim de semana mesmo excepcional a nível da meteorologia, uma coisa formidável.
No ano passado foi no domingo de manhã, choveu um bocadinho, mas não foi nada
de... E no sábado à noite choveu, e muito, pois no domingo de manhã aquela borraça até à 1 da tarde. Quando não chove é sempre bom para toda a gente, para quem organiza, para quem lá está, para quem vem, é bom para todos.
Enfim, também refresca as ideias, não é? Às vezes. Também refresca as ideias. Cipriano Rodrigues, evidentemente que esta festa marca, é um marco, não é? Porque é a festa mais importante da comunidade portuguesa em França e provavelmente, não sei se é por isso mundo fora ou não, e é importante, quer dizer, estas festas, e vocês alargam, quando se vê o elenco que vai atuar, quer dizer, é bastante, bastante alargado. Agora estou a pensar num senhor que se chama Fernando Correia Marques. Quando o conhecemos, ele trabalhava para a Federação Portuguesa de Futebol, e esta primeira vez que veio à rádio veio aqui para falar de futebol. De maneira que é para ver os caminhos. Vocês acompanham um certo número de cantores há anos esta parte, ou como é que as coisas se passam?
Todos os anos tentamos modificar um bocadinho, mas o Fernando Correia Marques, se eu não estou em erro, é a quarta vez que vai vir à nossa festa, portanto, durante 50 anos, deu uma vez todos os 10 anos, portanto, não é muito, e é uma pessoa que eu gosto de falar com ele, porque é uma pessoa que tem uma parte social muito importante, portanto, quando nós lhe pedimos certas coisas, ele está à nossa escuta, e compreendo a nossa vertente social, ele está ao nosso lado, e isso é, para nós é muito importante, que hajam artistas compreendendo o trabalho de uma associação a nível social, a todos os níveis, ajudar as pessoas. Portanto, este Fernando Correia Marques é uma dessas pessoas.
E sobretudo alguém que está sempre bem disposto.
Bem disposto e compreendo o que é um movimento associativo. compreendo que é o, porque as pessoas não compreendem que é um movimento associativo, que não é fácil, cada vez é mais difícil, né, por causa que muitas associações, por vezes, as pessoas acabam, e nós somos uma associação que duramos há 51 anos, com muito trabalho, muita dedicação, fomos sempre crescendo, crescendo, estamos, pronto, como tu disseste há bocado, e é verdade, a nossa festa foi uma das primeiras em França, e temos sobrevivido até esta data, continuamos, algumas têm acabado pelo caminho, nós continuamos, com muita luta, muito sacrifício, mas olha, vamos tentar, e não esquecendo a ajuda das autoridades portuguesas e francesas e dos empresários portugueses, não todos, mas alguns, vão reconhecer, que respondem sempre presente quando nós pedimos ajudas, portanto, na boa hora de citar aqui o nome deles, mas ainda bem que há alguns empresários portugueses que estão ao lado das associações, os quais eu agradeço, em nome da APCS, um grande obrigado.
Obrigado, Cipriano Rodrigues. Ora, para os nossos ouvintes que querem transportes públicos, é a linha E do ROR, a estação Emeranville.combo, é isso?
É isso, e podem ver no ROR, é, que é a linha que vem de Paris, a direção a Tournai-Abri, porque vocês quando saem da gare de caminho de ferro...
É sempre em frente.
Estão aí a 500 metros da festa, portanto, podem vir por transportes públicos, não há problema, os transportes, sobretudo no domingo, que sai até à 1 da manhã, portanto, a festa acaba às 20, têm transportes para ir para Paris ou para outras regiões, e também não queria esquecer de agradecer a toda a gente, mas também queria agradecer um obrigado muito grande à Rádio Alfa de estar todos estes anos ao nosso lado, antes da festa e no dia da festa, a divulgar as nossas atividades. Um grande obrigado a toda a equipa da Rádio Alfa e ao seu presidente, o Sr. Fernando Lopes, que compreende o movimento associativo e que responde sempre também presente, e os animadores todos da Rádio Alfa, vocês são excepcionais.
Obrigado, Cipriano Rodrigues. Aí, no que me diz respeito a mim, damos encontro no domingo, ao meio-dia, como já é hábito, com M. Le Maire, Gilles Borde, que foi reeleito logo à primeira volta nas eleições do mês de março. E espero bem também as entidades oficiais que estarão lá e por aí fora, deputados. Bom, veremos exatamente. Obrigado, Cipriano, e damos encontro então domingo, dia 24.
Obrigado, Arthur. Obrigado a vós todos. Um grande abraço e até domingo. Bom trabalho e bom fim de semana. O que falta. Obrigado.
O que falta, pois. E estamos a terminar a emissão. Uma referência ainda. Eleições legislativas cabo-verdianas. O Círculo de França há precisamente 17 locais ou assembleias de voto, como quiserem. É impossível enumerar todas, mas é para os nossos ouvintes que nos ouvem fora de Paris. Em Lyon, na sala Confluon, 7 à Place Girardet em Saint-Fond, Marseille, 7 à rue Félix Eboué, no que diz respeito à Nice, rue Gounod, 41 rue Gounod, sem esquecer aqui também na região parisiense, para além da embaixada de Cabo Verde aqui em Paris, Villeneuve-Saint-Georges, rue des Chênes, não tenho o número de telefone, e Pontoise, rue des Vendanges, Pontchêne, e por aí afora, de maneira que relembro mesmo para os nossos amigos cabo-verdianos, votar é um direito, mas antes de mais um dever. Obrigado igualmente ao Manuel Alexandre, espero regressar aqui na próxima semana em direto de Ponto Combo, mas Sérgio, se fizeres favor, dá uma ajudinha.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora, agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora, agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora, agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.